Bonjour, je suis ravie de te rejoindre sur mon podcast transformé pour l'occasion en voyage estival. Alors aujourd'hui, je reçois un multipassionné dans le domaine du marketing et je vais donc te présenter Frédéric Canvet. Alors, il est une référence dans le domaine B2B avec entre autres son site conseilmarketing.com et ses deux livres sur les bots et le growth hacking. Mais il n'est pas que ça. Il jongle avec brio entre son job de salarié plein temps et son side project, sa vie de famille, et accompagne parfois ses clients à sortir de leur zone de confort, moi en l'occurrence en 2018, avec ses interviews décalées en mode fast and curious pour parler d'expérience client et collaborateur. Il est venu nous partager ses pépites, ses routines, ses ressources et son énergie incroyable qu'il met en œuvre pour mettre en musique ses multiples projets. Et tu vas vite comprendre que ses rôles de product manager, enseignant, créateur de sites référence en B2B qui comptabilise plus de 10 000 visites par jour, auteur de deux livres référence dans le domaine du growth hacking et du bot, sa mission de papa engagé de deux petites filles l'ont poussé à développer de nouvelles manières de faire pour contourner la variable temps. Et parce qu'il est une source intarissable de solutions, il nous offre la possibilité de préparer nos valises autrement cette année pour nos vacances, avec une liste de bouquins pour mieux réfléchir à tes propres ressources lorsque tu auras les pieds dans l'eau et peut-être aussi la tête sous l'eau. Alors, accroche-toi, ça va fuser. On embarque sur la planète de ce multipassionné. Bonjour, je suis Sophie, plus connue sous le nom d'Elastic Girl. Je suis marketeur et coach certifiée. Mon super pouvoir est d'accompagner les personnalités atypiques à développer un environnement écologique pour exprimer leur singularité et retrouver toute leur puissance de création. Si aujourd'hui ton parcours professionnel ressemble plus à des montagnes russes qu'à une croisière sur le Nil, rejoins-moi tous les lundis sur ce podcast. Viens t'inspirer des parcours de héros pour designer ta propre quête dans un environnement qui te ressemble. Et si tu es à la recherche de pépites, de retours d'expérience de mentors et d'une bonne dose de décalage, tu es au bon endroit. Alors c'est parti, on embarque pour ta nouvelle aventure. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous rejoindre sur mon podcast. Alors j'ai un nouvel invité qui est quelqu'un que je connais déjà depuis un petit moment, qui vient de mon ancien monde, c'est Frédéric Canvet.
Bonjour.
Bonjour Frédéric, je suis ravie de te rejoindre aujourd'hui. Ça me fait tout bizarre en fait de changer le cadre dans lequel on va interagir. Mais voilà, ravie de te rencontrer et de pouvoir échanger avec toi autour de tes différents projets. Alors, comme tu es aujourd'hui salarié et tu as aussi également une activité en parallèle, un side project, j'aimerais un petit peu que tu m'expliques comment ton monde, dans sa globalité aujourd'hui, se dessine.
Pendant très longtemps, en fait, moi, comme toi, j'ai été salarié, etc. Et puis, en fait, généralement, ça, c'est un petit peu frustrant de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut faire, en fait, dans son travail. Et c'est vrai que moi, en fait, au départ, mon idée, mon projet, en fait, c'est né tout simplement d'une passion qu'on était avec des amis. On voulait, en fait, monter une start-up dans les années 2000. Et en fait, on s'est dit, tiens, on va monter une boîte, etc. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et je m'occupais de la partie marketing, etc. Et puis, donc, salarié le jour. Et puis, on montait le projet avec deux amis informaticiens. Et l'informatique, tu sais ce que c'est, l'informaticien dit oui, ça sera la semaine prochaine, et puis deux semaines, trois semaines, un mois plus tard, ça a duré. Donc moi, en fait, en attendant, j'étais en train de préparer l'arrivée du projet en créant un blog, en mettant en place un plan marketing, etc. Et je rassemblais toutes mes notes sur mon site conseilmarketing.com, qui était un blog sur Blogspot. Et finalement, ça m'a bien plu. Et comme je ne suis pas très sportif et ni doué de mes mains, je me suis dit, bah tiens, finalement, ça me plaît beaucoup, comme ça, de partager mes connaissances. Et finalement, au lieu de faire du sport, au lieu de faire de la musique ou d'autres choses, eh ben, en fait, ma passion, c'est devenu de tenir un blog et tenir mon site. Et donc, comme toi, en fait, le marketing, c'est souvent practice what you preach. Donc, en fait, essaye de faire ce que tu dis et dire ce que tu fais. Et ben, en fait, j'ai commencé à utiliser mon blog en tant que laboratoire de mes connaissances marketing. Tu vois, par exemple, quand on organisait un salon, je disais, bah, tiens, voilà mes bonnes pratiques pour organiser un salon. Ensuite, quand on faisait pourquoi on utilise un CRM, bah, j'expliquais pourquoi il faut utiliser un CRM, etc. Et quand tu passes après le next step en disant, bon, tu dis ce que tu fais, etc., bah, tu partages des bonnes pratiques et tu dis, mais normalement, le marketing, tu dis, bah, faut monétiser, faut que tu aies des clients, faut que tu aies un persona. Et forcément, en fait, tu commences à générer, entre guillemets, un side business parce que tu monétises et tu expliques aux gens bah, comment gagner d'argent sur Internet. Si tu ne leur montres pas, ils ne te l'expliquent pas comment on fait en vrai de vrai. Et c'est pour ça, en fait, que mon blog est devenu mon petit labo. Mmh. Et finalement, j'ai développé une petite activité. Alors, comme tu le disais, je suis salarié à 100%. Donc, forcément, c'est des activités à côté qui ne peuvent pas, en fait, me prendre beaucoup plus de temps. Et donc, j'ai vraiment fait en sorte que le site essaye de tourner, entre guillemets, en automatique sans moi. Donc, j'ai mis en place pas mal de process et qui me permettent, en fait, de faire en sorte que j'ai un travail quotidien qui est comme relativement bon, important. Je pense avoir une heure par jour minimum de travail quotidien, peut-être deux heures ou trois heures le week-end, ce qui fait beaucoup quand même pour une passion. Si tu faisais du jogging ou de l'athlétisme ou de la salle de sport, si ta femme te disait ouais, je fais trois heures le week-end et puis tous les soirs une heure de sport, elle dirait non, mais arrête un peu, occupe-toi un petit peu des mômes. Mais donc voilà, c'est ça la limite en fait, généralement, de ce genre de side project, c'est qu'en fait, tes journées ne font que 24 heures. Et justement, il faut à un moment donné écouter son corps aussi, écouter sa santé et se dire, ben voilà, finalement, soit j'essaye d'automatiser les choses, soit je réduis les choses, soit je gère des priorités. Et ça a été vraiment mon gros challenge quand j'ai eu mes deux filles, puisque autant quand t'as pas d'enfant, tu peux quand même gérer, tes soirées sont relativement simples. Quand t'as des mômes, tes soirées qui sont un peu plus compliquées. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de avoir des activités qui vont être relativement simples. Donc, par exemple, la publication de contenu, maintenant, je me suis limité à un seul blog, alors qu'avant j'en avais 4-5, et grosso modo un ou deux articles par semaine, et si possible des articles parfois que je ne rédige pas moi-même grâce au système des interviews ou des articles invités. Mais encore une fois, je suis un peu sélectif là-dessus parce qu'il faut vraiment faire attention à ça. De l'autre côté, essayer d'automatiser ce qui n'est pas forcément nécessaire. Et là, par exemple, j'ai fait appel à une assistante offshore qui s'appelle Sabrina. Ça fait maintenant 4 ans qu'elle travaille pour moi à mi-temps. Et donc, en fait, je lui confie des missions que je n'ai pas le temps de faire. Et donc, j'essaye d'organiser mon site Internet pour faire cela. Par exemple, sur mon site, il y a un chat. Mais c'est un chat offline. C'est-à-dire que les gens peuvent laisser un message, mais ils ne peuvent pas discuter en live. Et j'ai mis à mon assistante une FAQ de 80 pages. Et donc, elle répond aux questions les plus simples et les plus compliquées. En fait, elle me les envoie derrière. Ce qui me permet quand même de créer du relationnel, de répondre aux gens sans pour autant y passer des heures. Après, bien entendu, ça a ses limites parce qu'elle n'est pas capable d'avoir l'expertise marketing. Mais voilà, mon assistante aussi, toi Sabrina, elle me sert aussi à animer mon compte LinkedIn. Alors, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais j'essaie d'avoir les deux activités qui se soutiennent, ou en tout cas qui apportent l'une à l'autre. Alors, elle apporte l'une à l'autre en termes de conseils, d'expertise, parce que quand tu es indépendant, freelance, tu peux tester des choses et faire des choses qu'une boîte ne pourrait pas faire. Mais en même temps, j'essaye de faire en sorte que mon activité perso génère aussi du business pour la boîte. Et en fait, c'est à la fois une force, mais en même temps une faiblesse aussi, parce que tu fais des choses qui ne sont pas forcément de ton périmètre à toi. Mais par exemple, moi, sur LinkedIn, j'essaye de gagner un maximum de visibilité, j'essaye de générer des leads pour Eloquent, et parfois, j'arrive à générer jusqu'à 20-25% des inscrits à un webinaire. Et je fais de la détection de leads aussi régulièrement avec des projets qui sont détectés. Et donc, ça génère en fait du business, même si ce n'est pas directement pour moi. C'est entre guillemets du personal branding un peu plus évolué. Et donc, mon assistante, pour revenir à ce sujet-là, elle est là aussi pour m'aider à faire une partie du travail qui est un petit peu long et que je ne peux pas automatiser, parce que avec mon bouquin de gros hacking, je mets beaucoup en avant l'automatisation, mais l'automatisation a ses limites, puisqu'en fait, ça se voit. Et donc, Sabrina, par exemple, quand je fais demande d'invitation automatique sur LinkedIn avec un outil qui s'appelle LinkedIn Helper. Donc, j'essaye de rassembler ma communauté expérience client en France, c'est 15-20 000 personnes. Donc, j'essaye d'ajouter régulièrement des gens. Le premier message donc, est automatique avec cet outil LinkedIn Helper. Mais le deuxième message, quand les personnes ont accepté, c'est mon assistante Sabrina qui vient répondre avec le prénom, le nom de l'entreprise, parce que ça, c'est hyper compliqué en fait à faire avec un logiciel, même si c'est quasi impossible. Et ensuite, elle vient rajouter trois petites images. Et en fait, ça fait des ça fait quelque chose qui est beaucoup plus humain. Et donc, comme ça, j'essaye de la mettre sur des tâches à faible, moyenne valeur ajoutée. Donc, ça, c'est le second point dont je voulais parler. Le troisième point, c'est essayer de prioriser les choses et faire en sorte que ton business arrive en fait à travailler pour toi, entre guillemets, de manière automatique. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai pas le temps de faire de consulting et tout ça, et je me concentre plutôt sur des choses qui sont en self-care, comme par exemple, je fais un peu d'affiliation, l'affiliation qui me permet de mettre en avant des produits que j'utilise. D'ailleurs, j'utilise Sabrina, mon assistante, pour faire ça, parce que je lui dis, tiens, rédige-moi un tuto pour tel logiciel, ce qui me permet, en fait, donc d'être visible et positionné sur Google et d'avoir un lien d'affiliation qui est dedans. Alors, c'est plus ou moins compliqué, plus ou moins facile, etc. Mais voilà, ça permet de simplifier un peu les choses et puis d'automatiser les choses. Et donc, cette partie-là, de gérer les priorités, donc c'est voir des choses qui vont être compatibles avec donc des trucs en self-care, de la formation vidéo, de l'affiliation, etc. Et l'autre point, c'est d'avoir ce que moi j'appelle la North Star métrique. La North Star métrique, c'est en fait cet indicateur qui me dit Fred, tu dois suivre, c'est ça qui te permet de dire je vais sur une chose ou pas. C'est-à-dire qu'auparavant, je pense que pas mal de gens qui ont un site web sont là-dessus, c'est que tu te focuses à la fois sur le chiffre d'affaires, quel chiffre d'affaires tu fais, puis tu regardes le trafic de ton site web, tu vois le nombre de prospects générés dans ta mailing list tous les jours. Ça, c'est très typique d'un blogueur classique. Et là, en fait, à un moment donné, tu dis « Ah, mon trafic a baissé, il faut que j'écrive des articles. » Après, tu dis « Oh là là, j'ai pas assez de leads aujourd'hui, je vais tweeter sur les réseaux sociaux, je vais partager sur LinkedIn. » Puis après, tu vois ton chiffre d'affaires à la fin du mois, tu dis « Oh là là, j'ai pas atteint mon objectif, machin. Je vais lancer une promo ou je vais faire une formation vidéo ou je vais faire ceci, cela. » Et en fait, tu navigues un petit peu en zigzag et parfois, tu n'oses pas dire non à des projets. Et c'est pour ça, en fait, que dans la théorie du growth hacking, il y a ce qu'on appelle la North Star métrique, l'étoile du Nord, qui est en fait un indicateur précis qui te dit ce que je vais faire va m'aider à atteindre cet objectif-là. Et moi, en fait, je me suis dit que le trafic, c'est plus important, je regarde quasiment plus mon trafic. Le nombre de leads générés, c'est plus suffisamment important, mais je me concentre plutôt sur la partie chiffre d'affaires qui est une conséquence des deux. Et là, maintenant, ça me permet de prendre des décisions beaucoup plus simples parce que parfois, il y a des gens qui me disent « Tiens, Fred, est-ce que je pourrais faire un article invité ? Est-ce que je pourrais faire ceci ?» ou des projets qui m'intéressent. Et là, à ce moment-là, des fois, ça m'arrive de dire non. Je dis « Désolé, ce n'est pas dans mon business model. » Alors, parfois, il faut se méfier. Par exemple, tu vois là, j'ai accepté de faire au pied levé des cours sur le growth hacking dans une école de commerce.
Pour le coup, dans le growth hacking, tu as en plus édité un bouquin.
Ouais. Ah, ça, c'était une péripétie. Hein.
Après avoir été un spécialiste du chat, tu rentres en fait dans cette hyper compétence. Et donc, c'est juste pour rappeler un peu le contexte. Tu es assez connu dans l'environnement du growth hacking.
Ouais, parce qu'en fait, ça, c'était vraiment toute une histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y a Duno qui m'a contacté pour parler blogging. Parce qu'en fait, c'est mon site internet qui ramène beaucoup de visibilité. Et c'est vrai que moi, j'invite tout le temps. Quel que soit le secteur d'activité, les personnes qui ont vraiment l'envie de créer un blog, créer une présence sur LinkedIn, créer une présence sur TikTok, etc. Puisqu'en fait, c'est comme un vrai plus et ça permet de travailler sa marque personnelle et sa visibilité. Parce que moi, je le dis de plus en plus, on va arriver dans un système de starification que l'on retrouve en fait dans le domaine de la musique. C'est-à-dire que avec la visibilité qu'accordent les réseaux sociaux, avec les médias sociaux, quand tu penses en fait à un prestataire ou même maintenant avec un salarié, tu vas vers une shortlist. Tu vas taper, par exemple, si tu cherches un prestataire, tu tapes dans Google, quel est le prestataire pour les enquêtes de satisfaction, voilà, et tu vois qui sort. Tu peux demander à ton réseau et ton réseau va dire les enquêtes de satisfaction, ah ouais, je pense à ci, à ça. Et là, de plus en plus, tu vas arriver à la même chose pour les personnes. Hein. C'est-à-dire que quand un recruteur va aller rechercher un spécialiste du marketing, en fait, il va souvent aller taper dans LinkedIn et il va voir qui tombe dans les premiers. Il va dire, ah ouais, tiens, tel secteur d'activité. Voilà, il va faire des annuaires et il va faire des entreprises concurrentes. Et si tu as la visibilité, eh ben, en fait, tu vas passer devant. Et donc, dans notre domaine à nous, qui est le marketing, et même on peut le retrouver dans d'autres domaines qui sont la vente, par exemple, eh ben, en fait, cette starification va faire que si tu apparais dans les premiers en consultant ou en salarié sur LinkedIn, par exemple, eh ben, en fait, tu vas être pris comme la référence. Si tout le monde dit, ah, Gross Hacking, ah ouais, Frédéric Canevet, machin, expérience client, ah oui, c'est lui, eh ben, en fait, tu vas être, entre guillemets, starifié et ça te fera un avantage concurrentiel par rapport aux autres parce que tu vas être la référence. Et pour l'histoire du bouquin, ça, c'était aussi toute une aventure puisque, comme tu disais, d'une autre m'a contacté. Il m'a dit, ouais, tiens, on va écrire un bouquin. Moi, je disais, je suis pas un blogueur professionnel comme on le voit avec les gens qui ont un revenu à 100% dessus. Mais par contre, je disais, il y a un truc qui m'intéresse, c'est cette partie gross hacking. C'est une thématique qui m'intéresse, c'est une philosophie qui m'intéresse pas mal. Et en plus, c'est en phase avec mes convictions. Et je disais, tiens, ce serait pas mal d'avoir ce truc-là. Je suis sûr que ça va décoller un peu. Et puis, quand tu écris un bouquin, tout d'un coup, tu viens de référence dans un domaine. Et là, je me suis dit, waouh, c'est super important. Et il y a plein de gens comme ça qui s'auto-éditent avec Amazon KDP ou un autre système, tout simplement pour écrire un bouquin papier. Là, j'ai reçu il n'y a pas longtemps Christophe Train, qui est un spécialiste de la vidéo, qui a auto-édité son livre, qui l'envoie donc à des influenceurs. Et c'est vrai que quand tu écris un bouquin, en France, tu as toujours cette image-là. Donc voilà, écrire un bouquin, je me dis, tiens, c'est intéressant, truster cette visibilité-là. Même moi, monter en compétence là-dessus, parce que c'est aussi un point important. Et donc, j'ai commencé à me dire, voilà, Fred, le bouquin, c'est bien. Puis après, quand tu dis, oh putain, merde, t'as signé pour un bouquin et là, maintenant, il va falloir l'écrire. Et donc, là, je me suis dit, comme tous mes projets, je me dis toujours qu'il faut le faire à plusieurs. Et par exemple, j'ai fait la première formation sur le blogging en France en 2009. Et à l'époque, en fait, je me suis dit, Fred, waouh, parce que j'avais de la notoriété avec le site et tout ça. Je me suis dit, Fred, il faut que tu trouves quelqu'un pour t'aider. Et j'avais trouvé un pote, Boris, et on a fait ensemble la première formation vidéo sur le blogging en France. Et donc là, pour le bouquin, je me suis dit, bah, Fred, tu vas faire la même chose. Tu vas chercher des compagnons d'armes pour cette belle aventure. Et j'ai commencé à contacter 4 personnes.
C'est bien ça, les amis.
Ah oui, mais il n'y a que comme ça que ça marche. Parce qu'autrement, des gros projets, autrement, ça devient trop énorme. Et donc, tac, j'ai dit, ben voilà, il y a, tiens, Laurent, est-ce que tu veux écrire le bouquin avec moi? Ouais, Olivier, est-ce que tu veux écrire le bouquin avec moi, etc. Et puis, on a commencé comme ça avec une autre personne. Et l'autre personne m'a dit tout de suite, ah, non, je ne serai pas dispo finalement. Je te file peut-être quelques pages et un petit un mini chapitre, mais c'est tout. L'autre, en fait, Laurent, il m'a un peu lâché en cours de route. Et Olivier me disait, ouais, je te rends le chapitre, Ouais, ouais, je te le rends le chapitre, pas de souci. Et en fait, finalement, il disait, non, ben, je te rends le chapitre. Il m'a rendu le chapitre. Il m'a dit, bah, pour la suite, par contre, je suis pas dispo. Par contre, je vais te mettre en contact avec un gars qui est bien, qui s'appelle Grégoire Gambato, qui est à Grenoble. Et tu vas voir, vous allez pouvoir écrire un bouquin ensemble. Et c'est vrai que Grégoire, là, je lui ai dit, bah, tiens, il manque 2-3 chapitres. Est-ce que tu veux t'en occuper? On s'est jamais vu. On a tout fait ça par Google Docs à distance. Moi, j'avais juste fait le planning détaillé sur Excel. Et tac, on a écrit le bouquin et on s'est rencontrés après la sortie. Puis Grégoire, après, il a explosé totalement en visibilité puisqu'il a monté Germinal, qui était une boîte en fait de gross hacking. Et je crois qu'ils sont arrivés à plusieurs millions d'euros, une dizaine, vingtaine de même plus. 20 ou 30 salariés. Bref, il a vraiment cartonné, même sur LinkedIn, il a vraiment explosé les trucs. C'est quelqu'un qui est super brillant, qui est vraiment un ingénieur et qui a une mentalité d'ingénieur. Moi, je ne suis pas forcément cette mentalité assez carrée parce qu'il faut tout. Hein. Mais lui, il est très carré, très analytique. D'accord. Et il a vraiment cartonné ça. Et juste pour finir, la petite anecdote. Donc là, ce bouquin est sorti, on est à la deuxième édition, on a fait 5 000, 6 000 ventes, ce qui n'est pas trop mal pour un bouquin technique. Là, après, donc, j'ai écrit un bouquin aussi sur les bots. Et là, en fait, c'était justement pour servir mon truc chez Eloquent. Parce que c'est clair que quand tu écris un bouquin dans un domaine d'activité, tu deviens la référence. Et c'est vrai que j'ai dit à Duno, hey, tiens, j'ai une petite idée, écrire un bouquin sur les bots. En plus, les bots marketing, c'est génial. Et là, je suis reparti aussi sur le même système en disant, tiens, je vais le faire au commun. Et je vais faire ça avec un collègue de bureau, mais qui m'a quitté et donc qui m'a juste donné quelques trames. Et je devais coécrire avec une autre personne qui était aussi consultante. Et elle m'a dit, ouais, elle a écrit 2-3 chapitres. Et puis elle m'a dit, non, finalement, je ne veux pas apparaître dans le truc. Et je me suis retrouvé à écrire le bouquin quasi tout seul. Et là, justement, c'est là que j'ai appris le pouvoir de la routine. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important, le pouvoir des routines, parce que quand j'ai écrit mon autre bouquin, souvent, je me prenais en fait des heures. C'est-à-dire que je prenais une après-midi, je prenais un truc, je disais à ma femme et aux enfants, ah, laissez-moi tranquille, là, j'écris le bouquin pendant 3 heures, et tu te rends compte que tu n'es pas super efficace. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler, et c'est ce que j'ai fait pour ce bouquin-là, en me disant, tiens, je vais travailler tous les 2 jours, une demi-heure, 45 minutes à la pause déj, et là, bam, ça a vraiment fait des résultats, parce que tu es en temps limité. tu as une période et en fait, c'est là que tu es vraiment le plus efficace et tu es vraiment, c'est pas vraiment de la méthode Pomodoro, mais quand tu sais que tu as 45 minutes pour faire un truc et tu es en train d'écrire, tu le sors et quand tu as un plan détaillé, ça va assez vite et puis tu arrives à peu près à avoir un truc cohérent et finalement, je l'ai écrit dans les temps.
Voilà. Ah, génial, génial. Alors, tu vis plein d'aventures, hein. Ça, c'est clair que tu es ouvert, tu as tes chakras ouverts. Et donc, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu mets en place qui sont d'abord issues sûrement de ta curiosité naturelle dans les différents domaines techniques. Quand tu fais quelque chose, tu rentres pleinement dedans. Aussi, ta vraie capacité à aller chercher des ressources, que ce soit pour écrire un bouquin ou pour gérer ton flux de demandes ou d'informations avec ton assistante. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais tu étais quand même en hyperactivité, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi. Quel est finalement, que ce soit dans ton job, hein, ou que ce soit dans ton side project, qui, on l'a bien compris, nourrit aussi ton job de salarié. Je pense que c'est quand même une condition importante, hein, pour avoir une écologie peu sympa. Mais finalement, dans le fond, qu'est-ce qui fait que à chaque fois tu sautes sur ces occasions? Qu'est-ce qui nourrit ça? C'est quoi vraiment le défi?
Alors ça, c'est un excellent sujet. Voilà. Alors en fait, c'est très vrai et en fait, c'est quelque chose qui était inconscient chez moi. Et en fait, depuis 2018, ça va faire 4 ans, je pense, en fait, j'ai tous les mois, en fait, une conversation avec Raphaël qui est en fait, entre guillemets, mon coach. C'est-à-dire qu'en fait, le problème quand tu es indépendant ou même tu as une petite activité, tu es souvent un petit peu en solo et tu ne prends pas de recul. Et donc, c'est vrai qu'il y a 4 ans de ça, il y a Raphaël qui m'a dit, parce que lui aussi, il a un projet, et il m'a dit, tiens, je crois qu'on a tous les deux un projet, on voudrait faire des trucs, est-ce que tu voudrais qu'on discute une fois tous les mois et qu'on se donne nos conseils, qu'on se fasse un feedback?
Raphaël, c'est un entrepreneur aussi qui est dans le même domaine que
c'est
toi?
C'est un entrepreneur. Dans un autre domaine, en fait, il est plutôt dans la vente. En fait, c'est un ancien directeur commercial qui va lancer un side project, un projet, hein, même à temps complet. Et donc, en fait, il avait besoin d'en tout cas de mes connaissances du web. Et lui, par contre, il a vachement de connaissances sur la vente, il a vraiment de connaissances sur la motivation. C'est quelqu'un de très cartésien. Et voilà, donc il me disait, tiens, okay, ce serait pas mal qu'on échange ensemble. Moi, je peux t'apporter ça. Toi, tu peux m'apporter ça. Au début, j'étais un petit peu, bon, ouais, pourquoi pas, on va tester. Et en fait, ça fait 4 ans qu'on se voit comme ça, une heure et demie, une fois par mois, le midi. Et en fait, on discute un petit peu de nos priorités. Et au fil du temps, on a passé sur des choses de plus en plus personnelles parce qu'on se rend compte que la technique, c'est vrai, mais c'est ce qu'il y a derrière qui est le plus important. Et c'est vrai que c'est ces échanges-là qui m'ont fait me rendre compte en fait, que finalement, tout ce que je fais en fait c'est plutôt du personnel et c'est peut-être lié en fait à mon histoire personnelle en disant tiens j'aime bien aider les autres et parfois il me disait Raphaël mais fais pas trop de choses parce que apprends à dire non et c'est vrai que tu as des personnalités comme ça qui sont altruistes. C'est vrai qu'il y a ça sera écho à Frédéric Zacal de Care to Care qui disait que centre de contact, tu as différentes personnalités. Tu as des gens qui sont, entre guillemets, les procéduriers, et puis tu as les gens qui sont les gens qui veulent aider. Et c'est vrai que moi, bizarrement, j'aime bien aider les gens, j'aime bien rendre service, et il faut que je fasse attention à ça, parce que justement, il me disait à l'époque, dans une des premières réunions qu'on avait fait ensemble, il m'a dit, des personnes comme toi, en fait, réussissent le mieux quand elles sont avec une personne qui ne les exploite pas et qui les aide. Et par contre, c'est les personnes les plus malheureuses du monde quand elles sont avec des gens qui les exploitent et qui les exploitent jusqu'au bout de la corde parce qu'il y a un aspect reconnaissance. Et par contre, l'autre, en fait, elle est juste en exploitation. Et il me disait, allez, fais attention à ça. C'est vrai que faut chercher en fait quel est son ressort et son menteur.
C'est de faire aussi confiance à son intuition pour aller se connecter avec des personnes qui nous ressemblent, qui ont finalement les mêmes valeurs et les mêmes modes de fonctionnement. Tu te débrouilles pas mal hein, dans ce... sur ce thème-là, je crois, hein, quand même.
Ouais, mais il faut essayer de trouver les personnes qui sont en phase avec toi. Après, J'aurais en mémoire, en fait, aussi une personne, bon, alors je ne donnerai pas son nom, mais qui est en fait un blogueur. Et c'est vrai qu'il avait exactement la même philosophie que moi. Et on avait cette philosophie, tiens, on est là pour aider les gens, etc. Et donc, il avait son activité de coaching. Et c'est vrai qu'il disait, mais là, je suis là pour aider les gens, pour leur faire obtenir des résultats. Je ne suis pas là pour les arnaquer, etc. Et il disait, ouais, je ne suis pas comme les autres coachs qui facturent 10 000 balles pour une prestation. Moi, je suis vraiment là pour accompagner. Et c'est vrai que ça, je trouvais ça très bien. Et en même temps, je disais, mais attends, regarde ton niveau de revenu, tu as un petit peu du mal à générer du business. Il me disait, bah oui, c'est vrai, c'est dur, je suis souvent un peu ric-rac, etc. Et c'est que à ce moment-là, en fait, il a changé son rapport à l'argent parce que c'est quelqu'un qui est très, très croyant, en fait. Et c'est vrai que bah, moi aussi, je ne suis pas très croyant, mais je suis d'origine catholique, hein, voilà, chrétien. Et c'est vrai que le rapport à l'argent a toujours été un peu compliqué. Et c'est vrai que, par exemple, je n'ai jamais su combien mon père gagnait. Et en fait, tu te rends compte que tu as des croyances limitantes là-dessus. Et c'est lui, en fait, il a fait un séminaire aux States avec un coach qui lui a un petit peu retravaillé son rapport à l'argent. Donc il est allé au state et ça l'a en fait entre guillemets ouvert ses chakras et c'est vrai que là il s'est dit mais non mais finalement gagner de l'argent si tu aides les gens c'est bien et donc en fait grâce à ça ce qu'il a fait c'est qu'en fait il a revu un petit peu son programme, il a revu son truc et moi aussi pareil tu vois j'ai un bouquin que j'ai lu que je recommande à tout le monde surtout les personnes qui ont un petit problème avec le rapport à l'argent c'est Esprit millionnaire c'est Harvey Ecker ou je sais pas quoi donc en fait c'est un bouquin qui est intéressant parce que il t'apprend en fait à t'expliquer. Enfin, il t'aide à expliquer pourquoi en fait c'est bien de gagner de l'argent. Et par exemple, tu vois, pour ma fille, je lui ai dit, ben, j'essaye de lui donner cette valeur-là. Parce que ce n'est pas tout en fait d'avoir de l'intelligence, il faut avoir aussi cette intelligence économique. Et là aussi, il y a un autre bouquin qui est écrit par Robert Kiyosaki, qui est Père riche, père pauvre. Alors c'est vraiment très très basique. Je pense que si tu commences par Père riche, père pauvre et tu remontes après sur Esprit millionnaire, tu passes d'un cran. Même l'autre que je recommande de lire, c'est toujours La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Avec ces trois-là, déjà, normalement, tu as un bon pilier. Mais donc, ça montre bien que cette intelligence financière est importante. Et pour ma fille, justement, tu vois, bah, j'essaye de lui faire ça. Comme je te disais, je n'ai jamais su combien gagnent mes parents. Je ne sais pas combien ils gagnent en retraite, là, actuellement. Mais je lui ai dit, bah, papa, il gagne 100 € par jour. Quand il doit t'acheter un jeu Pinipon, parce que là, il me dit, ouais, j'aimerais bien que tu m'achètes ça. Et ben, en fait, est-ce que tu peux me l'acheter? Bah, je lui ai dit, bah, ça représente une journée de travail de papa complet. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Et donc, elle commence à se rendre compte des choses. Et je lui ai fait pareil à la maison parce qu'elle aime pas les devoirs comme beaucoup d'enfants et ben en fait on lui fait des challenges par exemple elle veut gagner un avion poupée LOL un avion poupée LOL c'est 80 €. Bon, j'ai réussi à l'avoir un peu moins cher, je lui ai pas dit hein, que je l'avais acheté à 50 et quelques au lieu de 80, mais je lui ai dit voilà, ça représente beaucoup d'argent pour faire ça, tu vas faire un petit challenge. Et en fait elle décide elle-même, alors nous on l'aide un peu pour savoir combien de livres, parce qu'elle est comme moi, elle est dyslexique. Moi c'est pour ça que c'est assez bizarre, j'écris, je fais beaucoup des trucs de blog alors que je suis très mauvais en orthographe, j'ai toujours eu des zéros. En plus, je suis dyslexique, donc je fais souvent des fautes de machin. Pourtant, tu vois, j'ai des blogs qui fait, je sais pas, 10 000 visiteurs par jour. Donc, ce qui veut dire qu'il faut pas lâcher les choses. C'est un peu comme Bienvenue à Gattaca, tu vois, c'est la volonté qui compte.
Ça va même au-delà, c'est que finalement, les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se fixe nous, hein.
Bah, exactement. Et donc voilà, donc pour ma fille, donc voilà, je lui dis, tiens, fais un petit challenge. Et donc, je lui dis, bah, si tu veux gagner ce cadeau-là, tu vas en fait tout simplement me dire combien de croix, combien de lectures tu fais. Et là, elle veut une maison Pinipon. Et je dis, bah, ok, on va l'acheter. On l'achète sur le bon coin, on essaye d'être un peu raisonnable et d'avoir un tarif raisonnable aussi, et d'être un peu éco-responsable. Et on dit, bah voilà, combien de croix ça fait cette maison Pinipon? Et elle me dit, ah, allez, 30 croix. Je dis, ok, bah 30 croix, un petit livre, ça vaut une croix. Et là, je veux absolument qu'elle fasse l'Alilo, qui est un truc d'école en fait en ligne. Et j'ai dit, ok, si tu fais l'Alilo avec ta sœur, tu redémarres un programme l'Alilo avec ta sœur, tu as le droit à 5 croix si vous faites 1 heure. Et là, elle me dit, ah, oh, 5 croix, j'aime pas faire les devoirs et tout ça. Si, je t'aiderai et tout ça. Et tu feras la maîtresse avec ta sœur. Et donc, tu vois, j'essaie comme ça de la motiver. Et ça, c'est important parce que il y a un des critères en fait du succès. Il y a une étude comme ça américaine qui est sortie et ils ont fait des études sur les personnes qui réussissaient dans la vie. Et il disait que les personnes qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui arrivent à faire une récompense différée. C'est-à-dire qu'ils ont comparé les gens qui étaient dans une salle avec des chips.
C'était pas des marshmallows, la capacité d'un enfant à réussir, entre sa capacité à gérer la gratification immédiate et la gratification différée, c'est ça?
Exactement. Et donc, les gamins qui résistaient pas, qui mangeaient la chips ou le truc, et ben en fait ils réussissaient moins bien dans la vie. Par contre, les gens qui disaient OK, si tu manges pas ces chips là et si tu en auras une deuxième tout à l'heure, et ben en fait ils avaient une capacité à mieux réussir dans la vie. Et donc c'est pour ça que toi j'essaye de d'éduquer plus ou moins financièrement ma fille et essayer de travailler sur cette partie récompense. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que les enfants sont très orientés gain court terme et c'est pas facile de dire mais pourquoi je dois réviser, pourquoi je dois faire les devoirs et tout ça. Mmh. Et je lui dis, toi, ma fille est dans l'école publique, là je vois une de ses meilleures amies aller dans l'école privée et c'est vrai que tu vois que le niveau de travail personnel, il n'a rien à voir. Son amie, elle a une heure de travail, donc elle est en CE1, une heure de travail tous les jours, ma fille, elle a 10 minutes. Mmh. Et je lui disais, mais faut que tu fasses du travail personnel parce que rends-toi compte que Isor, ton ami, une heure tous les jours pendant 5 jours, ça fait 5 heures, ça fait une journée de travail en plus. Donc, elle travaille une journée de plus que toi d'apprentissage. En plus, le fait d'écouter et de travailler toi-même, ça n'a rien à voir. Mmh. C'est justement ça, c'est aussi ce que j'ai vu là quand je fais des cours avec l'INSEC, c'est que c'est compliqué d'aller motiver les gamins. Pourtant, toi, c'est des masters, toi, c'est des gens qui sont... c'est des gamins, enfin c'est plus des gamins d'ailleurs, qui sont des professionnels, ils sont en alternance, etc. Et motiver des gens, des fois, tu fais ton discours et tu es obligé de les solliciter régulièrement. Moi, je ne faisais jamais ça quand j'étais élève. Très régulièrement, je suis avec, allez, alors à vous, un exemple dans votre entreprise et tout ça. Et toi, est-ce que ça te parle, machin? Et tu dois animer les gens non-stop et c'est vraiment dur. Et c'est un changement qu'il y a véritablement dans l'éducation. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de créer un petit peu cet effet waouh aussi. Ça, c'est un peu aussi mon cheval de bataille. Par exemple, tu vois, lors du premier cours que j'ai avec eux, pour essayer de les réveiller un peu. Donc, quand on est à distance, je les interroge un petit peu au hasard. Pour le premier cours, en fait, je leur fais gagner un de mes bouquins. Je leur dis, bon, allez, on rejoint un groupe WhatsApp où on va pouvoir échanger. Et ensuite, je leur dis, bah, tiens, le premier qui a rejoint, après, 3-4 slides plus tard, je dis, alors, qui a rejoint le premier groupe WhatsApp? Bon, tu recevras un livre dédicacé.
Ah, c'est génial. J'adore. Et est-ce que finalement, c'est parce que tu as appris ton side project à arriver à mettre de la valeur dans ce que tu faisais avec le cœur?
Ah oui, c'est l'enthousiasme. C'est ça qui... c'est pour ça en fait que, comme je le disais, moi, quand je travaille sur mon blog, c'est plus une passion. Ouais. Je ne vois pas le temps passer. Et c'est vrai que tu t'en rends compte quand tu fais quelque chose que tu aimes parce que tu lances le truc et tu ne vois pas le temps passer. Et c'est vraiment intéressant.
Le flow.
Ouais. Le flow, exactement. Ouais. Parce que tu lances ton truc et puis ça se déroule tout seul. Quand tu es obligé de te dire, allez, tiens, je cherche une distraction, je vais aller checker mes mails ou je vais aller sur YouTube ou je vais sur les réseaux sociaux, tu dis, ah non, c'est pas forcément ce que tu aimes le plus.
Ouais, bien sûr.
Le tout après, c'est souvent d'essayer de passer de ce side project à un temps complet. Et c'est vrai que pour l'instant, moi, on me pose tout le temps la question, pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est vrai que là, encore une fois, tu as à la fois l'origine, enfin ta personnalité même et ton environnement familial, etc., etc. Et moi, je m'en rends compte après, a posteriori, justement, en discutant avec Raphaël, parce que de plus en plus, comme je disais, Raphaël, tu en connais plus que moi, que ma femme, et que mes parents, parce qu'on a discuté de plus de choses, entre guillemets, personnelles. Et c'est vrai que y a un moment donné, il faut savoir se dire où on peut aller, où on peut stopper sur cet aspect passion et d'essayer de transformer ça soit en business ou pas. Et donc, ça a un impact. Enfin, il y a plusieurs faits qui peuvent impacter ça. Comme je disais, c'est ta personnalité. Moi, je dis toujours, j'écris un article comme ça qui est « Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur ».
Non, c'est clair.
Bah oui, parce que tout le monde me disait, mais pourquoi tu ne montes pas ta boîte? Et par exemple, toi, moi, j'ai un ancien collègue qui s'appelle Ludovic Girondon. Il a écrit un bouquin qui s'appelle La Dream Team. Il est coach en management, pour faire du management. Donc, tu vois, Ludovic, c'était donc un de mes collègues. On travaillait chez Sage. Et donc, il était product manager comme moi. Et il allait démissionner pour aller vers un autre boulot. Et il s'est dit, bah, tiens, Fred, est-ce que tu peux me montrer comment créer un blog, comment faire des trucs et tout ça? Je lui ai dit, bah ouais, si tu veux. Et puis, on fait ça le midi. voilà, moi, ça me prend pas beaucoup de temps. Et donc, je commençais à lui montrer des trucs. Et avec son copain Fabien, ils ont monté un site qui s'appelle Paris Zigzag. Et donc, en fait, il avait gardé ça en side project aussi. Sauf qu'au bout d'un moment, dans sa boîte, il s'est dit, je m'emmerde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette boîte-là. Il a tout laissé tomber. Il a monté son truc Paris Zigzag. Bon, voilà, ça a duré quelques années. Ils ont été jusqu'à 10 de personnes, grosso modo. Ensuite, ils ont revendu. Il est revenu salarié. Je crois que c'est dans le réseau Entreprendre ou quelque chose comme ça. Puis, il a écrit ce bouquin, La Dream Team. Et en fait, il s'est rendu compte que ça a été un méga succès et donc il s'est relancé encore en entrepreneur. Pourquoi? Parce que Ludovic aime le risque. Et je dis toujours, si tu es entrepreneur et que tu n'aimes pas le risque, ça va être compliqué parce qu'être entrepreneur, justement, c'est miser et pas savoir combien tu vas gagner à la fin du mois. Et un indice, c'est comment tu places ton argent. Si tu me places tout ton argent sur le livret A, sur le compte bancaire en disant « Ouh là là, je veux surtout pas prendre de risque », là, à ce moment-là, ça va être compliqué d'être entrepreneur. Donc, c'est sous cet aspect personnel, risque, passion, etc. Et l'autre point, en fait, c'est la partie familiale. Familiale, si tu es dans une famille où tout le monde est salarié, forcément, tu dis, mais est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque? Attention, tu prends un risque là-dessus, ta retraite, ton machin, tout ça. Moi, j'ai de la chance, mes parents étaient à la fois salariés et aussi, ma mère était commerçante et mon père l'aidait pendant l'été. Donc, quelque part, tu vois, tu reproduis l'histoire. Généralement, tu reproduis l'histoire de tes parents et c'est dans Esprit Millionnaire qu'il dit ça. C'est que généralement, tu as une culture financière.
Oui, disons que, enfin, au-delà de la culture financière, il y a aussi le fait que quand tu pars dans une aventure, quand tu pars dans l'inconnu, il faut que tu poses quand même quelques jalons. Et c'est vrai que ton environnement, quand tu as des parents qui ont été salariés, des parents qui ont été entrepreneurs, ça fait partie des jalons sur lesquels potentiellement tu peux t'appuyer, même si évidemment, et ça tu nous en as fait une jolie démonstration, il y a plein de gens autour qu'on peut aller chercher pour aller s'enrichir et trouver quelques jalons qui sont quelque part rassurants. Donc on n'est pas dans une comment dire, on se jette pas dans le vide, dans un total inconnu. À nous de créer notre, comme on le fait aussi en entreprise, hein, quand tu prends un poste, tu vas aller créer aussi avec les différentes équipes avec lesquelles tu as besoin d'interagir quelques relations pour pouvoir avancer avec eux en même temps que tu grandis dans l'entreprise. Hein. Les mécanismes sont assez proches.
Il y a un excellent bouquin là-dessus, c'est 90 jours pour réussir sa prise de poste. Alors, ça marche très bien pour une prise de poste interne, mais également externe. Par exemple, tu vois, moi, j'ai évolué chez Locan, j'ai pris de nouvelles responsabilités sur la gestion du marketing opérationnel, le CRM et tout ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah, tu vois, bon, je vais écouter ce bouquin audio. Moi, je suis très fan des bouquins audio sur Audible. Et j'ai écouté ce bouquin, et c'est vrai que même un simple changement de poste, ah, tu dis, ouais, c'est vraiment important. Et quand j'ai eu Léona, qui est ma stagiaire là, cette année, c'est vrai que ce bouquin-là m'a dit, ah ouais, Fred, faut que tu te donnes un fil rouge, facte ci, cela. Donc, ça,
Ouais, le fil rouge, ouais.
c'est bien. J'aime aussi un autre bouquin. Ouais. J'aime bien aussi un autre bouquin qui s'appelle Le Manager Minute. Enfin, c'est le nouveau Manager Minute. C'est un bouquin qui n'est pas très long. C'est vraiment un mini-guide. Ken Blanchard et Spencer Johnson qui ont fait ça. Et en fait, c'est un petit livre en fait, qui donne un petit peu quelques petites bases sur le management. C'est pas très évolué, mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, il te raconte en fait, ça sous l'histoire sous la forme d'une histoire. Il te raconte comme ça l'histoire d'un gars qui cherche comment devenir le meilleur manager du monde. Et en fait, il interroge du monde et finalement, il va voir quelqu'un et tout ça. Et c'est raconté en forme de storytelling. Comme un autre bouquin qui est vraiment très bien, qui est Ne coupez pas la poire en deux de Voss, ah, comment il s'appelle? Un négociateur du FBI,
Ah
donc ne
oui.
coupez pas la poire en deux. C'est un petit bon, un bon bouquet, un bon bouquin. Donc oui, c'est Chris Voss et Tal Raz. Et en fait, c'est un petit bouquin qui te donne en fait les bases de la négociation. Et pour tous ceux qui veulent négocier un salaire ou peu importe, ce petit bouquin-là vous aidera à plus négocier contre vous-même.
Et alors, toi, pour le coup, de quoi tu aurais besoin aujourd'hui pour avancer dans ton monde? Alors, peut-être en mode side project ou pas. C'est quoi le défi que tu as sur les prochains mois ou la prochaine année?
Alors, les défis, les projets, j'en ai toujours plein la tête et en fait, j'ai des to-do list qui sont assez importantes. Mon problème, souvent, c'est de prioriser les choses et surtout de savoir ce qui aura le plus d'impact. Parce qu'en fait, le marketing, comme le web ou comme être entrepreneur, c'est illimité. Tu peux avoir tellement de choses à faire et tu peux être occupé à faire des choses. Le but, c'est avoir de la véritable efficacité, quelque chose qui va vraiment donner des impacts maximum. Et c'est pour ça justement que le book and cross hacking est intéressant. C'est cette fameuse méthode AR où tu analyses en fait le cycle des ventes et tu vois où ça va pas et c'est où tu dois améliorer les choses en priorité. Parce qu'autrement, tu peux dire, bah ouais, par exemple, pour moi, j'ai fait un test pendant à peu près 1 an et demi dire, tiens, je fais moins de formation vidéo et je vais plutôt me concentrer sur l'affiliation. Et pendant 1 an et demi, tu vois, j'ai fait quelques tests et tout ça. Et puis finalement, c'est vrai que j'ai généré à peu près le même chiffre d'affaires. Alors ça, je reviendrai sur Esprit Millionnaire qui te dit, tu as un thermomètre financier. Et en fait, le fait d'être tout le temps sur le même chiffre d'affaires ou le même salaire, c'est que justement, tu as un thermomètre financier et qu'il faut que tu changes de thermomètre. Bref, mais voilà, et je me dis, bah, finalement, oui, avec l'affiliation, tu arrives à faire le même chiffre d'affaires, mais tu n'augmentes pas, tu n'es pas passé d'un palier. Et donc là, finalement, l'analyste me dit, tiens, c'était pas la bonne solution.
Donc, ton défi, ça serait d'arriver à prioriser bah, là où tu vas mettre des efforts sur les prochains mois pour grandir, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Mais c'est pas simple parce que tu vois, justement, avec mon coach Raphaël que je vois régulièrement, il me dit, mais alors, c'est quoi ta priorité? Qu'est-ce que tu veux faire? Et parfois, en fait, tu as le fait d'être prêt et de pas prêt à changer les choses. Et finalement, tu peux pas forcer un âne à boire. C'est ce qu'on dit. Et parfois, en fait, c'est que tu n'es pas prêt ou ça te fait pas suffisamment mal.
Exactement, ça c'est l'histoire du chien sur le clou.
Ouais, oui, c'est toi qui le disais dans ton dernier poste.
L'histoire du chien sur le clou, c'est il couine, mais il reste par terre sur son clou. Et pour quelle raison? C'est parce qu'il n'a pas assez mal.
Mais ton poste est excellent parce que justement, ça m'a rappelé ça. Le problème n'est pas suffisamment saillant.
Et en même temps, en coaching, on dit bien un truc, c'est que c'est OK, c'est juste accepter cet endroit où on est, qui est de la maturation, où on a besoin de continuer à observer, de continuer à avancer, de continuer à avoir un peu mal, de peser un peu le pour et le contre, parce que l'évidence, elle n'est pas encore là, mais l'essentiel, c'est de rester avec les chakras
Ouais, puis de
ouverts.
savoir ce qu'on accepte ou pas et de la situation. Mais toi, là, bah, par exemple, toi, comme je te dis, j'ai un salaire qui est correct et en même temps, avec mon side business, bah, je génère aussi du business tous les mois. Et c'est vrai que tu te dis, ah, tu as le saut dans l'inconnu, est-ce que tu abandonnes l'un ou pas? Et finalement, c'est pas si désagréable que ça. Mais à un moment donné, là, on le voit, ça devient de plus en plus compliqué. Bon, gérer le perso et le pro, bien entendu, hein. Ça, c'est toujours un peu complexe. Mais le deuxième point, c'est que on voit bien que avec des enfants, la famille et tout ça, tu n'as plus la même énergie. Donc, en fait, il faut se dire, mais où tu veux aller vraiment, où tu veux porter tes efforts et surtout pas aller à l'épuisement. Toi, moi, je l'ai vu avec le Covid. Tu vois, j'ai attrapé le Covid il y a allez, un mois de ça à peu près. Et c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte que c'était un Covid. Et en fait, j'étais quand même beaucoup fatigué. Et c'est vrai que le fait d'avoir le Covid plus la fatigue, ça m'a vraiment foutu KO. Et c'est là que tu dis, est-ce que tu vas pas trop loin? Et c'est vrai que Raphaël me disait la même chose, il me disait, mais ton cours à l'INSEEC, là, que tu es en train de faire, ça va te rapporter quelques centaines d'euros. Est-ce que ça vaut le coup de bosser jusqu'à 1 h du matin à préparer des cours et faire des notes pour les petits élèves? Ou est-ce qu'il vaut mieux que tu prennes cette demi-journée-là, soit pour avancer pour ton projet à toi, soit en fait pour prendre des vacances ou passer du temps avec ta famille? Et c'est vrai que c'était une très bonne question.
Une des questions qu'on peut se poser dans ce cas-là, c'est qu'est-ce que ça nourrit chez moi? Parce que je suis convaincue de ça, d'abord parce que je te connais, et puis aussi parce que tu es un humain. Tu n'es pas maso. Et donc, le fait d'aller dans cette recherche pour aller donner des cours, pour faire différentes choses, c'est quelque chose qui te nourrit parce que tu as besoin d'affiner, on va dire, ta vision des choses. Donc, c'est quelque part écologique et en même temps, ça demande beaucoup d'énergie et tu y es vigilant, donc ça c'est super, mais tu es en pleine recherche. Un aventurier, quand il part dans sa recherche, il ne limite pas ses efforts, il y va vraiment.
Mais comme disait Chantal, une de mes collègues, c'est que souvent le sommeil est la variable d'ajustement. Et en fait, tu dis, bah, j'ai envie de terminer un projet, bah, je me couche un peu plus tard, je me lève un peu plus tôt. Sauf qu'en fait, à force de jouer trop sur cette variable d'ajustement, tu joues sur ta santé.
J'entends. Alors pour le coup, on va aller explorer quelque chose en parallèle. J'imagine que créatif comme tu es, connecté à plein plein de choses comme tu es, tu as peut-être des héros, des gens qui t'inspire émotionnellement vraiment?
Alors, Jean-Marc Jancovici, c'est en fait un prof à l'école des mines ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est quelqu'un en fait, qui fait de la prospective sur l'évolution de la société, en particulier la partie énergétique. Et donc, en fait, c'est lui qui nous dit, ben voilà, on va en fait aller vers une décroissance. Et c'est vrai que c'est des choses qui m'inspirent beaucoup parce que ce qu'il disait depuis des années commence à arriver maintenant avec, on voit la crise du gaz russe, avec, on voit le réchauffement climatique, etc. Et c'est vrai que là, tu vois, je vais l'interviewer, je sais que je vais l'interviewer.
Ah, génial.
Parce que c'est quelqu'un, je pense, qui est en anticipation. Il a un blog et il dit, il a un site et il dit, je réponds à toutes les demandes. Ça peut durer longtemps parce que j'ai pas de secrétaire, je me déplace pas en avion parce que justement il essaie d'être éco-responsable. Et je lui ai envoyé là un email cet été en disant, Jean-Marc, si tu veux, je te paye 1 000 euros pour discuter avec moi une demi-heure sur le marketing et la décroissance, parce que je pense que on va devoir aller là-dessus et pour l'instant personne n'en parle. Le marketing, les ventes, tout est sur la croissance.
Alors, c'est marrant parce que quand je t'écoute, tu me fais spontanément penser à Indiana Jones. Parce que Indiana Jones, finalement, de part aussi son histoire personnelle et le fait qu'il a choisi le même job que son père, il a choisi aussi de mener d'autres quêtes et il a parallélisé ces deux mondes en étant par Mons et par Vaux.
C'est vrai que je n'y avais pas pensé.
et tiens, pour le coup, si Indiana Jones était juste à côté de toi et qu'il t'apprenait à faire quelque chose, qu'est-ce que tu lui demanderais de t'apprendre ?
Ce que j'aime bien avec Indiana Jones, c'est son sens un petit peu de l'humour, du défi. Et on va bien, c'est aller à l'essentiel. Et on revient sur cette technique de gros hacking. C'est, tu vois, dans la scène où, tu sais, à un moment donné, il est dans un souk. Ouais. Et il y a un mec avec un sabre qui lui fait... Ouais. Et en fait, Indiana Jones, clac, paf, il sort son fusil. C'était une scène qui était improvisée d'ailleurs, je crois. Ça n'a pas été pris au scénario au départ. Mmh. Et ça montre bien cet esprit-là. C'est qu'il ne faut pas aller à chaque fois chercher la complexité, mais il faut se dire, aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui va apporter de l'efficacité maximale? Et ça, justement, c'était cette philosophie du gros hacking. Et si je pouvais donner une question, c'est quel est le sens? Quel est le sens de la vie, en fait? Ça serait plutôt là-dessus. C'est pourquoi courir? Parce que c'est vrai que moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui... Parfois, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'amis qui me disent « tu cours de trop, tu vas tout de suite ». Et c'est vrai que c'est bon des fois à moi, des fois je vais trop vite. Mmh. Et parfois, c'est ralentir un petit peu. Mais quelque part, c'est une nature, c'est une force.
Tu vois, moi, c'est un peu ma mission, hein. C'est l'alignement professionnel, c'est de trouver ce juste équilibre entre ce qui fait vraiment sens pour toi et ce pourquoi tu es dans le flow, versus dans quel environnement je le fais, mais l'environnement au sens large. C'est-à-dire, quels sont les types de personnes? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est une start-up? Est-ce que c'est du stand-alone en étant auto-entrepreneur? C'est finalement, quels sont les facteurs clés qui vont servir ma mission pour vraiment garder ma colonne vertébrale, tu vois? Et quand on est multipassionné, c'est compliqué hein, d'identifier sa colonne vertébrale hein, parce qu'on est un peu des aliens. Hein. On a bien vu, Frédéric, que tu étais un alien.
Justement, quand tu es recruté comme ça, souvent, ça peut faire peur ou ça peut servir. Par exemple, moi, à chaque fois, en fait, c'est vrai que c'est pour ça aussi que je me suis jamais lancé. C'est que à chaque fois, en fait, y a quelqu'un qui vient me chercher, qui me dit « Hey, Fred, viens, on a un super projet. » Et forcément, tu dis « Ok, j'y vais. » Et puis, une entreprise foudra tout le temps quelqu'un à full-time. Et ce qui est vrai, hein, parce que quelqu'un qui est mercenaire, tu n'as pas la main dessus. Donc, être comme ça, ça te permet d'être passionné ou d'avoir une expertise, ça te permet d'être recommandé, mais quelque part, ça peut faire peur. Il y a des gens parfois qui m'ont dit « Non, mais Fred, on préfère pas travailler avec toi parce que tu as trop de passion, enfin, tu as une activité trop débordante à côté. On a peur que tu ne travailles pas à 100% engagé pour nous. » Et ça m'est arrivé aussi en interne, d'avoir des gens qui ont peur, ils disaient, mais tu vas nous bouffer le marketing parce que tu connais trop le marketing digital et toi, tu es product manager et tu vas te mêler des choses que qui ne te regardent pas.
Et donc, pour le coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta prochaine ou tes prochaines aventures? Ça serait quoi ton souhait ultime?
Déjà, de bonnes vacances, hein, ça va être bien, mais comme je dis souvent avec ma femme, les vacances, ça va être des vacances studio. C'est-à-dire que, en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a aussi, qui m'a appris, c'est que j'essaye désormais, de passer du temps avec ma famille. C'est-à-dire que j'ai fixé comme des règles qui étaient avant 21h, ben, je reste avec mes filles. Quand on est à table, j'essaye de ne pas regarder mon téléphone le plus possible. Et pendant les vacances, j'essaye, dans la mesure du possible, d'être pendant la journée tout le temps avec mes filles et ma femme et tout ça pour pas vraiment pour avoir de l'attention. En fait, c'est l'attention. L'attention qui est. Mais parfois, c'est pas facile parce que tu penses à des choses et puis voilà. Mais bon, bref. Voilà. Et là, dans les projets, c'est ce que je voulais faire. Je voulais écrire un autre bouquin avec Dunod, mais on n'a pas réussi à se mettre. Pas avec Dunod d'ailleurs, c'est avec mon éditrice qui passait chez Erol, je me souviens bien. On essayait de trouver une idée de bouquin, mais bon. Là, pas trop. Et j'aimerais bien faire un bouquin audio parce que je suis un fan des bouquins audio sur Audible et je pense que c'est un excellent moyen d'apprendre parce qu'autrement, moi, j'ai plus le temps de lire parce que j'ai un temps de travail, un temps de transport qui est d'une demi-heure. Et donc, en fait, en une demi-heure, t'as pas le temps de lire le temps que tu arrives, tu te machines, etc. Et donc, j'aimerais bien faire un bouquin audio. Et il faut que je vois parce que c'est pas simple de trouver le sujet et surtout je peux pas faire un sujet qui est déjà chez un autre éditeur. Donc un livre audio j'aimerais bien le faire. Voilà.
Ou un
C'est les
podcast, pourquoi
derniers
pas?
projets. Oui, mais c'est plus facile déjà.
Ah bah oui, c'est accessible, le podcast. Et puis, c'est ta chaîne, donc tu fais ce que tu veux. T'es pas tributaire d'une ligne éditoriale. C'est toi la ligne éditoriale, donc tu fais ce que tu veux. Et effectivement, c'est le
Tout à
canal de
fait.
la voix, c'est un canal, je trouve, vraiment très, très intime et puis surtout hyper adapté à notre rythme de vie, hein, c'est vrai, hein.
Mais c'est vrai que le podcast, il est bien, en fait, pour quand tu as des moments longs, comme cette conversation-là, et qu'en fait, par exemple, quand tu es dans les transports, bah, tu peux écouter ça.
Ben écoute, je te souhaite déjà des bonnes vacances alors.
Bah, merci.
De merveilleux moments avec ta famille, de belles nouvelles aventures, dont ta double casquette de salarié, de
Ah,
marketeur
mais de toute façon, il y en aura plein. Le tout, c'est de faire le tri de ce qui est vraiment important.
et de ce qui est vraiment important, et puis évidemment surtout de ton écologie de vie. Qui te permettra aussi de garder ton côté créatif. Mais bon, la chance que tu as, c'est que tu as toi-même développé tes propres outils pour pouvoir prioriser là où tu as envie de mettre de l'énergie et là où ça fonctionne.
Mais je crois beaucoup en fait aux routines
Ouais.
et à l'effet cumulé. Tu vois, il y a un bouquin qui s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy et l'autre, c'est Le pouvoir des routines. Et en fait, c'est vrai que, comme je disais, c'est comme pour le bouquin. Si on veut en fait commencer à faire quelque chose, il faut commencer par des petits pas.
Ouais.
Et une routine en disant, tiens, je mets tous les midis ou tous les soirs une demi-heure, bah déjà, ce sera beaucoup plus efficace que vouloir trop changer toutes les choses de A à Z.
Ok, super. Frédéric, merci mille fois.
Bah, merci pour cette
Et
interview.
je t'invite à quand même à l'occasion d'aller réfléchir si un héros pourrait pas de temps en temps t'aider. Tu pourrais peut-être modéliser certaines de ses pratiques, même s'il paraît être dans un monde un peu différent du tien. Il peut parfois, de manière très simple, aller te chuchoter des choses fort intéressantes. Ben, n'hésite pas à aller investiguer, comme tu le fais d'ailleurs très bien avec les mentors et les coachs, hein.
Oui, c'est vrai.
Toujours intéressant de mettre les choses en perspective ou de les paralléliser.
Ah, c'est une bonne chose de se projeter. Ouais,
Bon, ben,
c'est très
super.
vrai.
Ben, écoute, merci mille fois pour cette interview.
Merci.
C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Merci.
Moi aussi. Merci.
J'espère que le voyage dans le monde de Frédéric aura pu te donner de belles astuces et des références pour mieux t'organiser sur la gestion de tes importants. Et j'espère que tu auras pu découvrir de nouveaux outils pour servir tes passions. Je te mettrai dans le descriptif de cet épisode toutes les références des bouquins ainsi que les liens vers le monde de Frédéric Canevet. Et si tu as dans ton cercle proche de multipassionnés en mode brasse-coulée des personnes en recherche de ressources pour vivre une vie qui leur ressemble, n'hésite pas une seconde à leur proposer de me rejoindre sur ce podcast. Je serai ravie de faire grandir ma communauté pour cette fabuleuse cause de l'inspiration professionnelle. Alors merci pour ton écoute et prends bien soin de ton environnement pour nourrir ta passion et à lundi!